Et voici le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. À chaque jour de campagne, son carnet rose. Nouveau mariage hier, Yannick Jadot ne se présente plus. Il soutient le socialiste Benoît Hamon qui n'a pas boudé sa victoire hier en meeting à Arras.
Emmanuel Macron, désormais soutenu par François Bayrou, passe au chiffrage de son programme 60 milliards d'euros d'économies et 50 milliards d'investissements.
Le parquet national financier en pleine campagne et en pleine affaire Fillon-Le Pen sur des soupçons d'emploi fictif célèbre 3 ans d'existence. Ses magistrats se sont confiés en exclusivité à Élodie Guéguin.
La Corée du Nord a-t-elle utilisé une arme chimique, une arme de destruction massive pour assassiner le demi-frère du dictateur? La police malaisienne affirme avoir retrouvé du VX sur son cadavre.
Et nous irons enfin au Japon où un livre provoque des émeutes. Le dernier roman fleuve d'Haruki Murakami sortait cette nuit. Ces centaines de milliers d'admirateurs se sont précipités dans les librairies. Les grandes manœuvres et à force d'alliance, le nombre de candidats de cette présidentielle 2017 pourrait être historiquement bas. Après le mariage Macron-Bayrou, l'écologiste Yannick Jadot a annoncé hier son retrait au profit de Benoît Hamon. Une prise stratégique pour le socialiste après 3 semaines d'intenses négociations. En meeting à Arras, dans le Pas-de-Calais, Benoît Hamon n'a d'ailleurs pas manqué de mettre en scène cette première victoire. Laurence Perron y était.
Ce soir, je retire ma candidature.
C'était trop beau pour ne pas le tenter, faire surgir sur le grand écran Yannick Jadot annonçant son retrait. Bon, en vrai, on n'a pas eu l'image, ils sont plus forts chez Mélenchon pour la technique qui ironise un militant qui savoure son candidat, reconnu comme celui de l'écologie politique.
Ce n'est pas un acte anodin. Depuis 1974, l'écologie politique a un candidat à l'élection présidentielle.
Applaudi quand il s'attaque à l'alliance Macron-Bayrou.
Moi, je préfère qu'il y ait des vrais clivages droite-gauche. Cette alliance au centre-droit, plutôt une bonne nouvelle, ça clarifie.
Enfin, il exulte lorsqu'on arrive sur Marine Le Pen.
Je le dis aux ouvriers, je le dis aux fonctionnaires, je le dis à celles et ceux qui vivent de peu. Vous avez raison d'être en colère, mais ne vous trompez pas de colère.
Il ne sera jamais question de Jean-Luc Mélenchon. Il est pourtant dans toutes les conversations d'après-meeting. Celle des socialistes convaincus d'abord.
Faut pas le supplier, il vient pas.
Ça peut nous faire perdre, ça fera perdre la France.
Celle de jeunes mélenchonistes venus pour voir.
Chacun a sa fierté et ça doit jouer aussi.
Pour Benoît Hamon, ce n'est plus un sujet. Il le dit, j'ai désormais 3 adversaires. L'extrême droite, la droite et le centre droit de Macron-Bayrou. Avec Jean-Luc, je ne veux pas polémiquer par médias interposés. Il est temps de passer à la campagne.
Voilà Laurence Perron à Arras. Hier soir, Jean-Luc Mélenchon était justement l'invité de l'émission politique de France 2. Il a répondu qu'il ne fermait aucune porte à une discussion avec Benoît Hamon. Il lui propose de le rencontrer dimanche ou lundi. Et quand on lui demande s'il serait prêt à retirer sa candidature au cas où il obtiendrait les garanties qu'il demande, Jean-Luc Mélenchon a répondu pourquoi il ne la retirerait pas lui. Du côté d'Emmanuel Macron, désormais fort du soutien de François Bayrou, il dévoile ce matin dans Les Échos le cadrage économique de son programme. 60 milliards d'économies dans les dépenses publiques, 120 000 fonctionnaires de moins, 50 milliards d'euros d'investissement. Bonjour Marie Viennot.
Bonjour.
En attendant le détail du projet présidentiel annoncé pour le 2 mars, la semaine prochaine, ce chiffrage lève quand même le voile de manière assez précise.
Alors il lève le voile déjà sur un choix économique. Emmanuel Macron est donc du côté keynésien de la force. Il veut inventer un nouvel modèle de croissance, nouveau modèle qui passe par plus d'investissements européens, car le plan Juncker n'en est pas un, selon lui, mais il n'est pas le seul à le dire. Et pour cela, il faudrait, dit-il, un vrai budget pour l'Europe. Comme Benoît Hamon, Emmanuel Macron propose donc plus d'intégration et de moyens au niveau de l'Union européenne. Pour convaincre les Allemands, y compris de faire moins d'excédents, excédents qui ne sont pas soutenables, dit-il lui-même, il faut que la France avance sur les réformes structurelles et une trajectoire budgétaire vertueuse. Le candidat d'En Marche veut donc rester dans la limite des 3% de déficit sur PIB. D'où des économies, il en prévoit 60 milliards et précise où dans les grandes masses. 25 milliards seront trouvés sur le fonctionnement de l'État, 120 000 postes de fonctionnaires supprimés, vous l'avez dit, 10 milliards sur les collectivités locales, 15 milliards dans l'assurance maladie, 10 dans l'assurance chômage. Les allocations ne deviendraient pas dégressives, mais le contrôle des chômeurs serait drastique. Pas d'économie prévue, en revanche, sur les caisses familiales et de retraite. Dans le même temps, Emmanuel Macron promet donc 50 milliards de dépenses pour l'investissement public dans la formation, la transition écologique et la santé. 50 milliards financés par l'endettement sur les marchés financiers. Il promet aussi que les impôts seraient baissés de 20 milliards. Il est donc temps de faire tourner les calculettes, comme je l'ai fait pour Jean-Luc Mélenchon ce matin. Pour ma part, pouvoir, je passerai ses idées sur l'Europe et la zone euro à la moulinette dans le billet économique de lundi.
Marie Viennot, notre spécialiste éco au matin de France Culture. Marine Le Pen, elle aussi, en dit plus sur son programme. Hier, elle dévoilait ses pistes en matière de diplomatie, sa vision du monde et de la France avec ses voisins. Objectif principal, la défense de nos intérêts nationaux contre ce qu'elle appelle la bureaucratie monstrueuse de l'Union européenne et des organisations internationales. Précision signée Christian Chéneau.
Dans sa vision du monde, Marine Le Pen a désigné les ennemis de la France, les migrants, le terrorisme islamique, la finance internationale. Mais pour elle, la cible prioritaire, c'est l'Union européenne.
Il est temps d'en finir avec une Union en réalité, une tentation de fusion qui détruit la France comme elle détruit l'Europe des peuples et des nations, la seule. Pour que vive l'Europe, il faut en finir avec cette construction artificielle qui a pris pour nom Union européenne. Il faut en finir avec ce monstre bureaucratique tel qu'il est. Voilà pourquoi la première mission que je confierai au gouvernement de la France sera de remettre à plat les traités européens et d'engager résolument la France dans la construction d'une Europe des nations libres.
Marine Le Pen veut aussi faire sortir la France du commandement intégré de l'OTAN et rééquilibrer la balance diplomatique en faveur de Vladimir Poutine.
La Russie n'est plus l'URSS. Elle est un des éléments décisifs de l'équilibre des forces qui peut pacifier la mondialisation. La Russie a été maltraitée par l'Union européenne. Elle a été maltraitée par une France vassalisée. Nous déplorons le reniement de nos engagements quand nous avons cédé à la pression étrangère et refusé de livrer des bâtiments de projection et de commandement de type Mistral, qui n'auraient de surcroît en rien modifié les équilibres stratégiques ou contribué à accroître les tensions en Ukraine.
Bref, Marine Le Pen a dit vouloir tourner la page d'une diplomatie française qu'elle juge émotionnelle et moralisatrice.
Des candidats tous attendus au Salon de l'Agriculture. Rendez-vous incontournable. Il ouvre demain la porte de Versailles à Paris, inaugurée par le président François Hollande. On vous emmène justement dans notre magazine de la rédaction cette semaine, dans le monde paysan, chez de jeunes agriculteurs. Malgré la crise, malgré les difficultés, malgré des conditions de travail et de vie de plus en plus difficiles, ils ont la volonté de s'installer. Anne-Laure Chouin a sillonné plusieurs régions de France à leur rencontre. Et au centre de formation d'apprentis de Besançon, Alexis, un étudiant de 19 ans, lui a expliqué son choix de devenir paysan.
Ce que j'aime, c'est être avec les animaux tout le temps. Après, je ne voulais pas non plus commencer à bosser à 30 ans, parce qu'il fallait que je sois tout de suite au milieu des animaux.
Comment tu te vois d'ici 5 à 6 ans?
Je pense que, pour finir, je vais me voir installer, même si mes parents ne sont pas forcément pour. Après, ils me laissent mon propre choix, mais vu que mon père a arrêté...
Tu dis qu'il ne préférerait pas que tu t'installes, pourquoi?
Parce que... Il a vu comme c'était dur, il a fait ça pendant une vingtaine d'années, donc il a vu comme c'était dur. Après, il voit que j'aime ça aussi, il voit que je suis à fond dedans. Mon père est plus pour l'idée que je m'installe que ma mère, parce que ma mère, elle a vu que mon père a eu du mal. Enfin, moi, c'est ce que je veux. Le contact avec les bêtes, la proximité, aussi la liberté horaire, on est son propre patron, donc c'est tout de suite plus facile. Bon, c'est sûr que c'est 365 jours par an, 24 heures sur 24, donc... il n'y a qu'au milieu de mes vaches que je me sens bien, j'ai envie de dire. Le matin, des fois, à 5h30, c'est dur de se lever, mais moi, une fois que je suis arrivé au travail, ça ne me dérange plus. Donc c'est là que je vois que j'aime ça. Plus tard, je pars du boulot, on ne va pas dire plus je suis content, mais presque. Moi, je suis dans le milieu, donc je vois aussi ce qui se passe dans le milieu. Avec le CFA, on fait beaucoup de visites, tout ça, donc on voit comme c'est plus dur ailleurs, mais on arrive quand même à faire la part des choses entre ce qu'on entend et ce qui est vrai. Il y a encore du monde de passionnés, quoi. Même s'il y en a de moins en moins, je pense que l'agriculture a de l'avenir quand même.
Toi, t'as de l'espoir.
Moi, j'ai beaucoup d'espoir, oui.
Jeunes agriculteurs s'installer quand même, c'est le titre du magazine de la rédaction d'Anne-Laure Chouin dont vous venez d'entendre un extrait. C'est réalisé par Annie Bro. Ce sera présenté de 17h à 18h sur France Culture par Tara Schlegel. La campagne présidentielle marquée également par les affaires, des soupçons d'emploi fictifs portent une ombre aujourd'hui sur deux candidats, François Fillon, Marine Le Pen. Et point commun, c'est le parquet national financier qui est saisi. Un PNF qui fête ses 3 ans d'existence. Bonjour Élodie Guéguin.
Bonjour.
À cette occasion, certains magistrats vous ont ouvert leurs portes en exclusivité et en pleine campagne. Alors qu'ils sont critiqués par certains politiques, vous avez voulu sonder leur état d'esprit.
Oui, dans l'affaire Fillon, un des reproches qui leur a été fait par la défense, c'est d'avoir démarré leur enquête en 24 heures sur la base d'un simple article du Canard enchaîné. Mais la célérité, c'est un classique en fait au PNF. Et cette affaire ne fait pas exception. C'est ce que nous a dit Jean-Marc Toublan, le secrétaire général du parquet financier.
Nous sommes très attachés au parquet national financier, à l'égalité de tous devant la loi. Donc dès que nous constatons des soupçons de commission d'un délit qui relève de notre domaine de compétence, on se mobilise et on se saisit de l'affaire, quelle que soit l'importance, la sensibilité ou la couleur politique de la personne concernée.
Alors en clair, pas de traitement de faveur pour les personnalités politiques et ça se voit d'ailleurs dans les condamnations obtenues par le parquet financier depuis sa création. Jérôme Cahuzac, 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale. Claude Guéant, 2 ans dont un an ferme en appel dans l'affaire des primes en liquide. Cette fermeté requise à l'égard des dirigeants politiques, eh bien elle est totalement assumée par la procureure adjointe. Ulrika Delaunay-Weiss.
Pour 99 personnes qui ont des responsabilités politiques honnêtes, la seule qui sera malhonnête déteindra sur tous les autres. Et là, vous avez une rupture du pacte de confiance entre les citoyens et leurs représentants. Et c'est aussi ça dont nous parlons dans nos réquisitions quand nous aggravons les peines que nous demandons au tribunal de prononcer. C'est de dire au tribunal, écoutez cette exaspération face à ces gens-là et sanctionnez-la.
Les 15 magistrats du parquet national financier gèrent aujourd'hui 400 enquêtes. Près de la moitié concernent des atteintes à la probité, corruption, détournement de fonds publics ou trafic d'influence.
Élodie Guéguin, merci beaucoup.
Vous écoutez les matins de France Culture, il est 8h11. La suite du journal de Midi Perrier. Et l'on se demande ce matin si la Corée du Nord est capable d'utiliser des armes chimiques.
Oui, question posée après l'annonce de la police malaisienne cette nuit. Des traces de VX auraient été retrouvées sur le cadavre de Kim Jong-nam, le demi-frère du dictateur nord-coréen assassiné il y a 10 jours à l'aéroport de Kuala Lumpur. Le VX, c'est un agent neurotoxique extrêmement dangereux. La pire forme de gaz sarin, la mort en quelques minutes. Frédéric Oujardias nous appelle de Séoul.
Kim Jong-nam a été tué par le plus mortel des agents neurotoxiques appelé VX, a annoncé la police malaisienne après analyse d'échantillons prélevés sur le visage et les yeux de la victime. L'agent VX n'a pas de goût ni d'odeur, il s'attaque au système nerveux et musculaire et il est considéré comme beaucoup plus toxique que le gaz sarin. Cette substance peut tuer par contact avec la peau ou en étant inhalée. Elle est même considérée comme une arme de destruction massive par l'ONU. Les deux femmes qui ont appliqué ce produit sur le visage de Kim Jong-nam au beau milieu de l'aéroport de Kuala Lumpur se sont lavés immédiatement les mains juste après leur attaque. La victime, elle, est décédée quelques minutes plus tard. Selon la police malaisienne, l'une de ces femmes souffrait de vomissements, ce qui est justement un des symptômes d'empoisonnement par l'agent VX. La Malaisie a annoncé qu'elle allait décontaminer l'aéroport 11 jours après l'attaque. La Corée du Nord, la principale suspecte dans cet assassinat, possède, selon les spécialistes, d'importantes quantités d'armes chimiques et notamment cet agent VX. Utiliser une telle arme dans un aéroport international bondé présente bien sûr des risques considérables. Si la culpabilité du régime est avérée, cela devrait détériorer encore davantage ses relations avec la Malaisie et au-delà avoir de graves conséquences diplomatiques.
Frédéric Oujardias à Séoul et Pyongyang est sorti du silence observé depuis la mort de Kim Jong-nam. Le régime dictatorial tire à boulets rouges sur la Malaisie, l'accusant de l'assassinat et de comploter avec justement la Corée du Sud. Difficile d'éteindre les feux allumés par leur président Donald Trump, mais les chefs américains de la diplomatie et de la sécurité intérieure s'y sont employés hier lors de leur visite au Mexique. Ils ont assuré qu'il n'y aurait pas d'expulsion massive de clandestins des États-Unis ni de recours à l'armée en matière migratoire. Quelques heures plus tôt, Donald Trump avait comparé les efforts engagés pour expulser les illégaux à une opération militaire. La course ne se fait plus seulement sur la route. Pour la voiture sans chauffeur, elle s'engage maintenant sur la voie judiciaire. Le pionnier du secteur Waymo, ex-Google Car, lance des poursuites contre Uber. Il l'accuse d'avoir dérobé ses secrets industriels. Un ancien employé serait parti avec 14 000 dossiers confidentiels. Un préjudice estimé à plus d'un demi-milliard de dollars en termes de recherche et développement. Il provoque des cohues immense au Japon et fait passer des nuits blanches à ses millions de fans. L'auteur japonais Haruki Murakami sortait ce matin son nouveau roman. Le titre, Le meurtre du commandant de la chevalerie. Ses admirateurs se sont précipités dans les librairies japonaises dès minuit pour se procurer l'ouvrage tant convoité. Frédéric Charles.
On ignore tout du contenu du dernier roman de Haruki Murakami. Le romancier, qui préfère l'ombre à la lumière, a insisté pour que ses lecteurs le découvrent sans rien savoir. Auparavant, l'on sait seulement que c'est un récit plus long que Kafka sur le rivage et plus court que 1Q84. Le manuscrit totalise 2000 feuillets. Le premier tirage est de 700 000 exemplaires pour le premier tome et de 600 000 pour le deuxième. La plupart de ses romans sont traduits en français chez Belfond. En 2013, Haruki Murakami avait donné une conférence publique à Kyoto. Il était alors sorti d'un silence de 18 ans sur le thème « Voir l'âme et la décrire ». Reprenant une métaphore de Kafka, il avait dit que l'homme est comme un immeuble. Dans les étages, il y a sa vie, au premier sous-sol, les débris de sa mémoire, et au second sous-sol, l'âme et ses énigmes. Et dans ses romans, comme le pianiste Thelonious Monk en jazz, sa musique préférée, Haruki Murakami se situe tour à tour dans l'un ou l'autre registre. Et il bat depuis des records de vente dans le monde.
Frédéric Charles à Tokyo pour France Culture. On termine avec le temps de ce vendredi. Une alternance de nuages et de soleil, du vent autour de la Méditerranée. Ce matin, on enregistre 2 à 7 degrés en général. Les maximales vont baisser 8 petits degrés à Berck, où est née notre invitée Annette Messager. 9 degrés à Colmar, 10 à Paris, 11 à Chambéry, 12 degrés à Quimper et à Bordeaux, 16 degrés pour Marseille et Nîmes. C'est la fin de cette édition préparée avec Moussa Lechili.